Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Chine, Islam, Madame Aubry. Chine. L'Église en Chine. Ce n'est pas simple, cela souffle le chaud et le froid, aussi bien du côté des Chinois que du côté du Vatican. Disons-le tout de suite, même si Benoît XVI n'y voit qu'une seule Église catholique, il y a l'Église patriotique officielle, fortement encadrée par le régime communiste, et l'Église souterraine fidèle à Rome. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais des sources bien renseignées disent qu'il y a environ 60 évêques et 6 millions de fidèles de chaque côté. Donc au total, quelques 120 évêques et 12 millions de catholiques chinois. Ce n'est pas rien, même si cela ne représente qu'à peine 1% de la population de la Chine. Voici ce qu'en dit l'annuaire de statistiques chinois édité par l'Office gouvernemental des statistiques à Pékin. Nous n'avons pas trouvé d'édition plus récente que l'année 1997, publiée dans le China Daily. Donc probablement fortement falsifiée, surtout du fait que le régime ne veut pas reconnaître les catholiques souterrains. Je cite « Bouddhistes, 13 000 temples, 200 000 religieux, dont 12 000 lamas, hommes et femmes. Taoïstes, 1 500 temples, 25 000 prêtres et religieuses. Islamistes, 30 000 mosquées, 18 millions de pratiquants, 40 000 imams. Protestants, 12 000 temples, 25 000 lieux de réunion, 10 millions de pratiquants, 18 000 pasteurs. Catholiques, 4 600 églises et lieux de réunion, 4 millions de pratiquants, 4 000 prêtres. Toutes religions confondues, continue l'annuaire des statistiques, en compte 75 établissements de formation du clergé. Fin de citation. Le régime communiste, dès son arrivée en 1949, avait chassé les 5000 missionnaires catholiques étrangers qui opéraient en Chine. Mais l'Église continuait à fonctionner. En 1957, le régime imposa aux catholiques, comme aux autres religions, à se regrouper sous forme d'une association unique, qui serait le vis-à-vis, sinon le preneur d'ordre du gouvernement communiste. C'était la naissance de l'Association patriotique catholique de Chine, excommuniée par le Vatican. Mais maintes catholiques et des diocèses entiers préférèrent disparaître. C'était la naissance de l'Église souterraine de Chine, totalement fidèle à Rome. Donc, depuis 53 ans, ces deux églises catholiques naviguent parallèlement sur ce vaste territoire chinois, les uns excommuniant les autres. La campagne des « Cent fleurs » initiée par Mao avant 1966 semblait inaugurer une ère plus libre pour les catholiques, mais la révolution culturelle de 1966 marqua le début d'une période noire. Destruction des églises, déportation de nombreux prêtres et fidèles vers les « Laogai », camps de travail, autrement dit camps de concentration. Finalement, en 1978, le gouvernement annonça une relative liberté des cultes en reconnaissant 5 religions, ceux mentionnés dans l'annuaire gouvernemental cité ci-dessus. Mais évidemment, pour pouvoir exister et opérer, il fallait qu'elles rentrent dans le schéma des associations patriotiques, esclaves de l'État. En 1999, une nouvelle période violente de persécution s'ouvrait avec la destruction de la secte Falun Gong, permettant de mettre main basse sur tous ceux qui ne voulaient pas se regrouper dans les associations esclaves du régime, y compris la moitié des catholiques, c'est-à-dire les souterrains. C'était l'action Frapper fort de 2001. Le Vatican, qui n'a pas de nonciature en Chine continentale, mais sur Taïwan, essayer de tergiverser dans cet univers chinois constamment en évolution sans arriver à des résultats tangibles. Le point décisif est toujours la consécration des nouveaux évêques, avec ou sans l'accord du Vatican. Les consécrations sauvages avaient pratiquement cessé depuis 2000, avec une exception en 2006. Mais le 20 novembre 2010, une nouvelle ordination contre l'avis clairement exprimé par le pape eut lieu dans l'évêché de Changde, province de Hebei, en présence de 8 évêques catholiques, dont plusieurs, sinon tous, ordonnés avec l'accord du pape. Ceci a mis fin pour l'instant au pourparlers déjà bien avancé concernant l'ouverture d'une nonciature apostolique à Pékin. D'ailleurs, les évêques qui se plient au régime sont constamment sous surveillance, souvent en arrêt-résidence et même amenés de force. Nous en sommes là. Le seul évêque qui peut parler clairement, c'est l'ancien archevêque de Hong Kong, en retraite à Rome, le cardinal Zen. Il parle surtout au nom de l'Église souterraine, en précisant, je cite, « Quel autre crime les consécrateurs qui ordonnent des évêques illicites ne seraient-ils pas prêts à commettre pour le bien de l'Église ?» Ce qui trahit largement ce que pensent les catholiques souterrains fidèles à Rome. Il faut dire que nos frères et sœurs catholiques en Chine, souterrains, ont plus de courage que nous pour désigner les vrais et les faux catholiques, les éternels compromisseurs et les martyrs, les fidèles debout et les fidèles couchés. Saint Jean, dans le Nouveau Testament, pourtant l'apôtre de la charité, n'a-t-il pas pratiqué un langage similaire ? La vérité du Christ n'est jamais commode. L'islam. Lors du récent synode des évêques du Proche-Orient à Rome, il y avait au moins un prélat qui osa dire toute la vérité sur l'islam et notamment son livre de base, le Coran. C'est Mgr Antoine Beylouni, archevêque libanais d'Antioche. Son intervention n'a pas été rapportée in extenso dans l'Osservatore Romano, le porte-parole officieux du Vatican, notamment le paragraphe suivant sur le Coran qui, en raison de sa pertinence, vaut tout son poids d'or pour sa pertinence et clarté. Je cite « Le Coran inculque aux musulmans la fierté d'avoir la seule religion vraie et complète. C'est pourquoi il vient au dialogue avec cette supériorité et avec l'assurance d'être victorieux. Dans le Coran, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, ni dans le mariage lui-même, ni en matière d'héritage, où l'homme a une double part, ni dans le témoignage devant les juges, où la voix de l'homme égale la voix de deux femmes, etc. » L'archevêque continue. « Le Coran permet aux musulmans de cacher la vérité aux chrétiens et de parler et agir contrairement à ce qu'ils pensent et croient. Dans le Coran, il y a des versets contradictoires et des versets annulés par d'autres, ce qui donne aux musulmans la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre selon son avantage. Le Coran donne aux musulmans le droit de juger les chrétiens et de les tuer par le djihad. Il ordonne d'imposer la religion par la force, par l'épée. C'est pourquoi, continue l'archevêque, les musulmans ne reconnaissent pas la liberté religieuse, ni pour eux, ni pour les autres. » Dans Valeur actuelle du 11 novembre. En 2002, Mgr Georges El Mur, patriarche assistant melkite catholique pour la Jordanie et l'Irak, nous a expliqué à peu près ceci. Je cite « Le cœur des musulmans est comme ensorcelé par Mohammed, ce qui fait qu'on ne peut pratiquement pas les convertir. Un homme musulman aurait tout à perdre en devenant chrétien. Il faut renoncer à sa splendeur mâle et son despotisme familial pour devenir humble et crucifié avec le Christ. C'est humainement impossible. » Fin de citation. Il a ajouté qu'il n'a connu pendant sa longue vie de 73 ans qu'une seule véritable conversion d'un musulman au Christ. Il y en avait bien d'autres, mais selon Mgr Elmur, c'était des conversions intéressées, par exemple pour obtenir une bourse à l'université des jésuites en USA, ou alors pour pouvoir épouser une riche jeune fille chrétienne, etc. D'autant plus louables sont les efforts d'évangélisation que certains missionnaires et groupes laïcs catholiques mettent en œuvre pour ramener ces âmes, créées par Dieu et pour Dieu comme nous, à notre seul Sauveur Jésus-Christ, comme cela se fait actuellement à Vienne, en Autriche, déjà de son conversion adulte, et depuis très peu à Paris, groupe BNM, formé par l'UNEC et Amen, boîte postale 70114 95210 Saint-Gratien, courriel bnm.amen@orange.fr. Madame Aubry. Madame Martine Aubry se présentera probablement aux élections présidentielles en France en 2012, mais son arrivée à l'Élysée pourrait signifier la fin de la France chrétienne et le début de la France islamiste. Voici les faits. Née en 1950 comme fille du très catholique politicien socialiste européiste Jacques Delors, elle se marie d'abord à un certain monsieur Aubry, dont elle a gardé le nom jusqu'aujourd'hui. En 2004, elle divorce et vole en mariage la même année avec un Lillois du nom Jean-Louis Brochen, salafiste et avocat musulman. Celui-ci avait défendu en 1993 les 17 lycéennes voilées exclues par le lycée Faidherbe. En 2001, aux assises de Douai, il a défendu l'un des trois membres du gang de Roubaix. Il a défendu aussi le sinistre groupe de rap, sniper, raciste anti-blanc. Il est surnommé l'avocat des islamistes. On comprend que, depuis que Mme Aubry est maire de Lille, le nombre d'employés musulmans à la mairie a fortement augmenté. Il y a une piscine réservée aux musulmanes, il y a des repas halal dans les écoles, des banques musulmanes, des écoles islamiques, ainsi que des cinémas, restaurants et salles de spectacle séparées pour chaque sexe. À la fin des années 1990, Madame Aubry a participé à un commando socialo-communiste qui a attaqué un paisible colloque de renaissance catholique à Lille, en entrant de force dans la salle, renversant des tables d'exposition et levant la main contre les congressistes jusqu'à ce que la police arrive pour mettre les catholiques à l'abri contre ce défoulement anti-chrétien. Disons-le à tous les socialos tentés à voter pour elle. Vous voulez cela pour la France? Toujours moins de chrétiens? Toujours plus d'islamistes? C'était donc l'actualité religieuse de cette semaine sur votre radio préférée, Radio Silence. Au revoir, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.